Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben, ça c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 6h10, bonjour à vous toutes et à vous tous, excellent dimanche avec RMC. Et c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve, comme chaque week-end, vous le savez, 6h, 10h, le samedi, le dimanche, c'est le week-end des experts sur RMC. Nous sommes en direct et nous allons passer donc 4h ensemble avec, vous le savez tout à l'heure, entre 8 et 10, Jean-Luc Moreau qui sera à mes côtés, notre expert auto du dimanche, entre 8h et 10h, Jean-Luc répondra à toutes vos questions auto. Et puis, on évoquera bien évidemment l'épisode de pollution hein, qui sévit en ce moment sur Paris, la circulation alternée. Mais on évoquera aussi, tout à l'heure, et de manière un petit peu longue, pour qu'on ait le temps de bien comprendre ce qui se passe, la valeur de revente d'un véhicule d'occasion. Peut-être vous apprêtez-vous à revendre votre véhicule. Vous avez des questions sur ce sujet, on en parlera donc tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau et nos invités. Ce sera entre 9 et 10 et puis bien sûr, toutes vos questions auto au 32-16 à partir de 8h. Mais pour débuter en ce dimanche matin, elle est à mes côtés. Elle est venue avec tous ses animaux. Et c'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia.
Oui, bonjour François, bonjour à tous.
Je suis toujours assez surpris d'entendre tous ces animaux. Voilà.
Ça en fait là. J'arrive pas à les compter.
Non, ils sont beaucoup quand même. Hein. Imaginez s'ils venaient tous dans le studio comme ça, ça serait sympa.
Pourquoi pas. Il faudrait faire ça une journée au moins.
Voilà. Le studio d'RMC transformé en Arche de Noé.
Voilà.
Ça serait cool. Laetitia est notre vétérinaire et jusqu'à 8h, elle m'accompagne sur RMC pour répondre à toutes vos questions animaux. Profitez-en avec tout à l'heure notre quiz de la vie privée des animaux. Voilà. Je sais pas de quoi nous allons parler. Peut-être que vous pouvez nous donner un petit indice, Laetitia.
Eh ben, on va parler de singes. Grands singes.
Puisque ce sera d'ailleurs le thème de notre deuxième heure de ce rendez-vous animaux.
Et oui, à l'occasion de l'exposition sur la piste des grands singes qui a lieu actuellement au Jardin des Plantes à Paris. Oui. C'est une exposition qui a beaucoup de succès et qui reste à Paris pendant un an. Et c'est vrai que...
C'est au Jardin des Plantes. Hein.
Voilà. Les grands singes, c'est quoi? Ce sont les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans.
Oui.
On peut se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont de commun avec l'homme? Parce qu'ils sont très proches de l'homme. Ce sont nos cousins, il paraît.
Bien sûr.
Pourquoi ce sont nous? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment de commun avec l'homme? Donc on en saura plus tout à l'heure avec une primatologue qui nous expliquera, qui nous parlera de ces animaux étonnants.
Oui, ce sera tout à l'heure, donc à partir de 7h. Et puis on évoquera aussi le vote de la loi sur la biodiversité.
C'est l'actualité cette semaine à l'Assemblée nationale. On a examiné le texte de cette nouvelle loi sur la biodiversité. Alors c'est sûr que si on n'est pas dans la protection animale, si on n'est pas vraiment dans ce domaine-là, on comprend peut-être pas ce qui se passe et surtout les conséquences aussi de cette loi. Qu'est-ce que ça va apporter?
Donc on décryptera tout ça.
Décryptera tout ça avec Gilles Boeuf, qui est président du Muséum National d'Histoire Naturelle et qui nous expliquera quelles seront les conséquences sur la faune sauvage en France.
Ça sera tout à l'heure entre 7h et 8h sur RMC. Et puis, bien sûr, en fil rouge, dès maintenant, vous pouvez joindre notre vétérinaire, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr pour un petit témoignage concernant votre animal de compagnie. Parce que vous voulez une petite consultation au téléphone avec notre vétérinaire, Laetitia Barlerin. N'hésitez pas, 3216, animaux@rmc.fr. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Laetitia, on commence avec Michel qui est avec nous et qui nous a appelé au 3216. Bonjour Michel.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Bonjour.
Voilà, je vous appelle parce que voici mon souci. Nous avons un chat, Tatine, âgé de 13 ans.
Hein? Oui.
Et depuis, ça fait maintenant 8 ans à peu près, il se trouve qu'elle perd ses poils. Alors elle perd ses poils sur le dos. et toujours à la même époque. Mais quand je dis qu'elle perd ses poils, elle perd ses poils, mais c'est partout. Donc elle a une bande de 15 cm de long à peu près sur 6 cm de large, et ça fait une grande plaque. Ça descend même sur les flancs et on voit sa peau. Donc, si vous voulez, sa peau, elle est saine, hein, elle est. Et l'année passée, c'est toujours pratiquement, ça commence à la même époque.
C'est-à-dire
l'année passée, ça avait tendance à repousser ses poils, vous savez. On avait bon espoir, mais puis après, ça recommence. Ce qui s'est passé, on a vu déjà depuis le temps, hein, parce que bon, taquine, donc elle est pas malade, hein, mais bon, c'est sûr que c'est pas joli. On a vu 3 vétérinaires, et bon.
Et qu'est-ce qu'ils vous disent alors, Michel?
Eh ben non, de rien, non. Et un, on a changé les croquettes, hein, et rien n'y a fait en changeant les croquettes.
Elle a quel âge?
13.
Elle a 13 ans.
13 ans. Hein?
Et bon, c'est vrai que quelqu'un qui la voit comme ça, quelqu'un qui vient à la maison ou autre, qui connaît pas, peut se dire, mais ce chat est malade.
Et oui, c'est
mais elle
sûr.
Est pas malade parce qu'elle grimpe sur l'olivier, il faut voir comment dans le jardin elle s'amuse. Donc,
Vous avez dit que c'est toujours à la même période. C'est quelle période?
Eh bien, à cette époque-là, parce que vous voyez là,
au printemps,
quand le matin, bon, c'est un chat qui reste dehors, et simplement on le fait rentrer quand il fait froid, le soir devant la cheminée en hiver, mais autrement, il vit dehors, hein. Et il se trouve que là, comme à cette époque-là, quand le matin, quand j'ouvre la véranda, je lui donne donc ses croquettes, hein. Il y a des touffes, mais inimaginables, tout ce que je ramasse.
D'accord.
Des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui va lui rester, quoi?
Donc c'est toujours au printemps, c'est ça,
au printemps,
Michel,
alors, hein. Michel?
Ouais, pratiquement à cette époque-là, oui.
Laetitia.
Bah écoutez, d'abord bon, je peux pas vous dire ce qu'elle a vraiment. Il y a des différentes pistes, hein, parce que je la vois pas. Il faudrait bien sûr faire une analyse de peau, une analyse de poils. Vous savez, on aime bien regarder au microscope, on aime bien faire des biopsies, envoyer ça aux analyses, aux laboratoires d'analyse, parce que ça nous donne beaucoup d'éléments justement sur un phénomène qui semble étonnant, puisque c'est toujours au printemps. Elle a toujours la même chose. Elle se dépoile et toujours au même endroit. Alors, moi, un chat qui se dépoile au printemps, je pense d'abord à une mue.
Oui.
Mais une mue dans le sens où, son organisme fait que le poil d'hiver tombe, mais le poil d'été ne pousse pas. C'est ça qui est embêtant. Ça veut dire qu'il y a une mue qui est anormale.
C'est-à-dire que normalement, le poil d'hiver tombe, mais le poil d'été pousse.
Bien sûr. Hein, il n'est pas nu.
Instantanément,
alors, voilà. Chez le chat, on n'a pas un chat qui est complètement nu, d'un seul coup, et on voit la peau. Ce qui n'est pas le cas sur de certaines races de chiens, par exemple les chiens de traîneau, où vraiment on a vraiment l'impression qu'ils perdent tout leur poil quand ils font de la mue, parce que la mue est assez étonnante, incroyable et très importante. Donc ça veut dire que au printemps, la peau n'arrive pas à synthétiser de nouveaux poils. Déjà ça, donc ça veut dire qu'au printemps, il faut prévenir en donnant des compléments, vitamines, oligo-éléments, acides aminés soufrés, qui permettent cette repousse de poils. Déjà, voilà, c'est important. Ensuite, au printemps, un poil qui tombe sur le dos, je me dis, tiens, est-ce qu'il serait pas un parasite?
Avec
le parasite qui est toute l'année, mais qui est encore plus virulent au printemps, c'est-à-dire la puce. Parce que la puce, quand elle pique, le chat se lèche. Alors, il n'a pas forcément des lésions sur la peau, faut le savoir.
Ça se voit pas.
Mais ça pique. Et du coup, le chat se lèche, et se lèche surtout sur le bas du dos et sur le dos, parce que c'est là où la puce aime bien piquer.
Mmh.
Et du coup, perd ses poils. Donc, il faut bien traiter contre les puces. Et bien
mais là,
traiter...
ça a l'air d'être véritablement localisé, hein, Laetitia.
Ouais, mais ça
peut être le cas avec les puces.
Localisé.
D'accord.
Et puis ensuite, il faut penser aussi au printemps, nos animaux peuvent être allergiques au pollen.
D'accord.
Et c'est vrai qu'au printemps, on a le pollen, et vous le savez très bien.
Ah bah oui, j'en sais quelque chose.
Hein, voilà. Mmh. Et avec la pollution, je pense que ça s'arrange pas. En tout cas, ils peuvent aussi avoir une allergie qui peut s'exprimer, parce que vous dites que ça fait 8 ans que ça revient chaque printemps. Cette allergie peut aussi s'exprimer par une perte de poils, et des poils, voilà, qui tombent comme ça régulièrement à la même époque.
Mmh.
Il faut y penser. Alors, le problème du chat, c'est que, Il n'existe pas encore de tests allergologiques, que ce soit sanguin ou cutané, qui sont vraiment valables pour diagnostiquer une allergie au pollen chez le chat. Donc c'est des fois, c'est souvent par exclusion, parce qu'on a enlevé une allergie aux puces, une allergie alimentaire et tout, qui compense au pollen si c'est vraiment dans une période bien précise, comme le printemps. Il faut y penser aussi, mais là on n'a pas, on peut pas faire des sensibilisations, on a juste un contrôle de l'allergie comme on peut avoir des antihistaminiques, des corticoïdes. Voilà, donc ça il faut y penser. Et puis après, la dernière chose, c'est penser à un problème hormonal qui viendrait qu'au printemps. Ça, je...
C'est un peu bizarre.
C'est oui, voilà. Ouais. Donc, une mue, des puces ou une allergie au pollen. J'irai sur ces voies-là, voyez Michel. Hein. Allez voir un dermatologue, un vétérinaire dermatologue, pourquoi pas. Peut-être qu'il vous aiderait dans cette période-là.
Il y a beaucoup de vétérinaires dermatos.
Il y en a de plus en plus.
D'accord.
Il y en a de plus en plus, parce que ça devient une spécialité vétérinaire reconnue. Et donc, mais il travaille que par référé, c'est-à-dire que c'est votre vétérinaire traitant.
Qui emmène, d'accord.
Vous
oui, qui
dit,
conseille.
Allez voir mon confrère spécialiste en dermatologie. Et voilà, il vous donne, dans toutes les villes, il y en a, bien sûr. Hein.
D'accord. Laetitia, merci beaucoup Michel, il est 6h20, on revient dans un instant avec Peggy qui va nous parler de son chien de 12 ans qui aboie sans arrêt, ça va être sympa. Et puis notre quiz de la vie privée des animaux, le 3216 animaux@rmc.fr, il est pile 6h20 sur RMC, on revient dans quelques secondes, à tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est RMC, très bon dimanche à vous toutes et à vous tous. À suivre chez nous la météo et les infos de 6h30 dans quelques instants. Peggy aussi, qui va nous parler de son chien de 12 ans qui aboie sans arrêt. Les gens ont même peur de ce comportement. Que faire ? Ça doit être une situation un peu compliquée pour Peggy. On va la retrouver dans un instant. Mais auparavant, les amis, comme chaque dimanche matin à la même heure, Laetitia nous propose son quiz de la vie privée des animaux. Une question, un QCM comme on dit, hein, une question à choix multiples liée aux animaux. Et le cobaye, c'est qui à votre avis ? C'est moi.
Eh oui.
Voilà, alors on y va.
Alors, vous savez que tout à l'heure, nous allons parler des grands singes dans notre deuxième partie d'émission. Et ben, j'ai un petit quiz spécial grands singes.
Alors, c'est bien.
Vous savez que bon, les grands singes n'ont pas le langage vocal pour communiquer. Donc, ils ont d'autres façons de communiquer, dont des mimiques. Parce qu'ils sont très expressifs. Hein. Vous regardez un chimpanzé, vous regardez un gorille. Quand vous regardez la face de ces animaux, ils sont très expressifs. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup d'attitudes humaines aussi, hein, ce qui est assez troublant quand on les regarde.
C'est vrai.
Et les grands singes peuvent, à l'instar de l'homme, sourire. Ce sont même les seuls animaux avec l'homme à pouvoir sourire.
Tiens.
Et alors, quand vous voyez un chimpanzé, alors vous savez, dans les spectacles, dans les films, souvent, ils sont en train de rigoler.
Oui, mais oui. Et puis, on voit bien leurs dents.
On voit bien l'air d'or. Alors, que signifie un sourire chez un chimpanzé ?
Un sourire chez un
chimpanzé.
Oula, un sourire chez un chimpanzé. C'est pas facile à dire. Hein.
Et oui, matin surtout à 6h.
C'est chaud.
Donc, j'ai trois propositions.
Allez-y.
Ça veut dire je suis content.
Je suis content.
J'ai peur.
J'ai peur.
Ou j'ai faim.
Ou j'ai faim. D'accord. Alors, c'est le sourire ou le rire ? C'est la même chose ou pas ?
Non, le sourire.
Le sourire, hein, Laetitia, le pas
sourire.
Le rire. Parce que c'est vrai que parfois, on voit dans des documentaires animaliers des singes rigoler, quoi. Enfin, en tout cas...
Je ne vais pas les imiter. Hein.
Voilà, mais qui se moquent, qui se moquent. Donc là, on voit que c'est bien parce qu'ils rigolent, quoi. Ils s'amusent. Bon, alors vous savez quoi ? Comme d'habitude, vous pouvez m'aider. animaux@rmc.fr. Laetitia n'a pas accès au mail, il n'y a que moi. Donc elle n'est pas au courant. Si vous avez une petite idée, je vous attends. Allez, à tout de suite. Bon, Peggy est avec nous. On accueille Peggy qui nous a appelé au 3216. Bonjour Peggy.
Oui, bonjour.
Bonjour Peggy.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Comment ça va Peggy ?
Ben ça va bien, je suis encore au lit.
Eh ben vous
avez bien raison.
Vous savez qu'avec Laetitia, on rêve nous de faire l'émission au lit. Mais ça serait compliqué.
Peut-être qu'on va le faire un jour.
Quand vous aurez mon âge, je vous le ferai.
Oh, attendez, même avant, ça serait bien là maintenant, vous vous rendez compte ?
Oui.
On serait installé chacun dans notre lit, je dis bien chacun dans notre lit.
J'ai compris.
Et voilà, on aurait notre petit micro, notre casque, hein Laetitia ?
Ça serait pas mal.
Voilà, ça serait drôle.
Bon.
Alors, que se passe-t-il, Peggy ?
Bon, alors j'ai adopté une petite chienne il y a 12 ans.
Oui. Qui était en très mauvais état, la SPA. C'était pas ce genre de chien que je voulais, mais j'ai eu tellement pitié que je l'ai prise.
Ah bah souvent c'est ça, vous savez, oui, on est souvent attiré par le chien le plus malheureux dans la cage,
le poil. Voilà. Qui n'est pas des poils longs, je suis tombée sur un poil long.
C'est quoi comme race hein?
Oh, il n'y a pas de race.
C'est croisé.
Ça ressemble
quoi,
à quoi?
Ça ressemble à rien.
Ah, c'est une nouvelle race, là. Je vais appeler la Société Centrale Canine, la race, rien.
Oui, mais je vais vous dire que tous les gens que je rencontre me disent qu'est-ce qu'il est beau, ce chien.
Et ben voilà.
Elle est magnifique.
Et qu'est-ce qui se passe alors avec votre chien, Peggy?
C'est le chien de tri craintive.
Craintive.
Elle a été battue.
Ah.
Oui.
À 6 mois, déjà, elle a été battue.
D'accord.
Elle a une maladie à l'espère. Hein. Et alors, elle est devenue très, très craintive. Quand elle entend des locataires au-dessus qui font du bruit, elle va sous mon lit.
Oui, effectivement.
Elle n'a pas une vie bien agréable.
Oui, bien sûr.
Et puis, quand je la sors, elle aboie après tous les gens. Alors, les gens, quand même, comprennent qu'elle a peur.
Mais elle aboie. C'est un gros chien. Elle
non,
pèse
tout
combien
petit.
Ah, c'est un petit. Ah bon, d'accord.
Oui, elle pèse 4,5 kg.
Ah bon. Et les gens, ils ont peur d'elle quand elle aboie.
Et oui.
À 4,5 kg.
Et oui, c'est drôle. Hein.
Bah oui, c'est sûr.
Bon, oui,
bah, vous savez, moi, j'ai vu des gens qui avaient peur de mon chihuahua. Il fait 1,8 kg. Hein.
Et
il aboie pas. Donc des fois.
Ah oui. Il y a des gens qui ont eu peur de votre chien, Laetitia.
J'ai vu des réactions de peur parce qu'ils ont peur des chiens en général. Donc.
Ah oui, parce que franchement, parce que vraiment... pour avoir peur d'Indy, il faut vraiment se lever tôt là.
Oh, et Durka aussi. Hein.
Ah bon.
Alors je leur dis donc c'est qu'elle est craintive. Alors il y en a qui s'hasardent à la caresser. Mais dis rien.
Eh ben, dis rien.
Si on y va doucement, elle dit rien. Mais si on y va brusquement, alors
elle a peur.
Elle hurle.
Et qu'est-ce que vous faites pour qu'elle hurle pas?
Et je me dis de se taire.
Ah oui, ça c'est pas mal.
Et ça marche pas.
Et ça marche pas trop.
Ah bah non.
Je lui dis, tu es gentil. Mais tu es gentil, toi tu le sais. Alors là, elle est contente.
Bon alors Laetitia, qu'est-ce qu'on peut faire pour le chien de Peggy qui aboie?
Ben là, je pense Peggy va falloir peut-être vous rapprocher d'un éducateur pour vous aider à avoir une bonne attitude aussi dans la rue par rapport à votre chienne, parce que bon. Bien souvent, quand on dit au chien « tais-toi » et qu'il aboie, c'est un peu comme un autre chien qui aboierait juste à côté et qui dit du coup ça, comment dire, ça encourage votre chien à aboyer encore plus. Voilà, il faut éviter de dire « tais-toi » dans la rue à son chien. Sinon, je pense que voilà, il se dit encouragé puisque on aboie. Quelque part. Si vous aboyez sur votre chien, il aboiera d'autant plus. Ensuite, quand on dit, quand on le caresse en disant non, arrête, et ben là aussi on encourage, parce qu'on caresse. Et quand on caresse un chien, ben ça veut dire vas-y, continue. Donc on est, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire quand il aboie? Alors je pense que vous avez compris, le chien aboie pour différentes raisons, et le vôtre c'est parce qu'il a peur. Et ça marche de temps en temps, c'est-à-dire qu'un chien qui aboie contre quelqu'un, bah, cette personne passe son chemin. Donc ça marche, donc ça encourage le chien à aboyer encore plus dehors. Et c'est vrai qu'il faudrait, un petit peu comme certaines personnes qui viennent vers votre chien parce qu'il est tellement sympa, il a l'air tellement sympa et tellement beau, ils viennent voir s'ils peuvent pas le caresser, et ben encourager ça. Encourager le fait que la personne dont le chien a peur vienne vers le chien pacifiquement et veuille le caresser, lui parler doucement. Il faudrait que dans la rue, vous demandiez aux gens, mais venez, il est super sympa mon chien. Ne vous inquiétez pas, venez doucement pour le caresser. Et ça peut améliorer son comportement. Tout en sachant quand même une chose, c'est qu'à la base, il est très craintif. Donc, si vous n'y arrivez pas toute seule, vous rapprochez d'un éducateur qui va vous dire comment faire dans la rue. Et aussi, vous rapprochez aussi peut-être d'un vétérinaire pour lui donner peut-être aussi un médicament ou même tout simplement un complément alimentaire naturel qui puisse diminuer cette anxiété.
D'accord.
Et le rendre d'un point de vue émotionnel moins instable comme qu'il est.
Merci beaucoup Peggy. Laetitia, on revient après la météo, les infos de 6h30. On va poursuivre avec vos questions au 32-16. Hein. À tout moment, vous pouvez joindre notre vétérinaire. Profitez-en, 32-16 ou bien par mail, animaux@rmc.fr. Ajoutez votre numéro de téléphone dans le mail, comme ça on peut vous rappeler très vite. À tout de suite, donc, c'est RMC.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC.
Attention Laetitia, il est temps de retrouver une question flash. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Laetitia, justement. Attention, là nous avons une double Laetitia.
Ah.
J'ai un York, ça peut pas être vous.
Non.
Qui vient... Mais ça aurait pu.
Ça aurait pu, oui, hein, pourquoi pas, oui.
Voilà, j'ai un York qui vient d'avoir 1 an. Il ne veut pas manger dans sa gamelle même de la viande. Il préfère qu'on lui donne à la main ou à la fourchette ou voler dans les gamelles de mes 4 autres chiens. Comment faire, Laetitia? On a de ça, pas ça.
Mais vous savez, les York, ce sont des... Ils ont un caractère très sûr d'eux et ils aiment bien devenir les maîtres à la maison.
D'accord. Et tourner ça, en bourrique.
Voilà.
Son
mais
maître.
Ça, mais ça, c'est typique. C'est-à-dire que manger dans la gamelle d'un autre, manger dans la main d'un autre, manger à l'heure qu'il veut, quand il veut et surtout en spectacle, c'est-à-dire que tout le monde le regarde, c'est vraiment la prérogative d'un leader dans la maison.
Eh oui,
et
c'est
donc,
ça.
Votre petit York a un nom, qui pue un bébé, qui est un jeune homme et qui veut s'imposer dans la maison. Il se dit, ben voilà, là, il a compris le truc. Alors, il vous mène par la baguette, c'est le cas de le dire, mais c'est pour imposer son, on va dire sa dominance, mais en tout cas, le fait que c'est lui qui dirige la maison. Et il l'impose aux autres chiens, puisqu'il va manger dans leur gamelle. Vous vous rendez compte? Il vous l'impose à vous, et il l'impose aux autres chiens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, ne pas rentrer dans son jeu. Vous lui donnez sa gamelle. Alors, vous pouvez séparer les chiens, si vous voulez, quand vous donnez la gamelle, matin ou soir, ou matin et soir. Et puis, au bout d'un quart d'heure, s'il n'a pas touché à sa gamelle.
Mais oui.
Parce que vous allez partir de la pièce, aussi très important. Vous lui donnez la gamelle, vous partez de la pièce. D'accord, hein, mm-hmm. Vous n'assistez pas. C'est pas le roi soleil, hein. C'est quoi, pas Louis XIV, hein, votre chien.
Non, c'est
donc,
un chien.
C'est un chien. Donc, vous partez de la pièce. Vous lui laissez la gamelle 1/4 d'heure, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il l'a pas touché. Tant pis pour lui, vous lui enlevez la gamelle.
RMC, c'est au 32-16.
34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Retour du week-end des experts et des animaux. C'est comme ça chaque dimanche sur RMC, 6h, 8h. Notre vétérinaire nous accompagne et répond à toutes vos questions. Animaux, profitez-en. Vous avez le 3216, hein, ça c'est le standard RMC que vous connaissez. Et puis aussi le mail animaux@rmc.fr. Je vous rappelle que tout à l'heure, entre 7h et 8h, Laetitia, on va parler des singes.
Oui, on va parler des grands singes.
Voilà, même, et on va essayer de mieux connaître, en fait, le cousin de l'homme.
Et voilà, et savoir un petit peu qu'est-ce qu'il a de différent et même de commun avec l'homme.
Exactement.
Parce qu'on sait que les dernières, enfin, on a beaucoup de découvertes, surtout au point de vue comportemental, sur les grands singes, que ce soit les gorilles, les chimpanzés ou les orang-outans. Et c'est, d'ailleurs, c'est le thème d'une exposition qui a lieu en ce moment au Jardin des Plantes à Paris. Et c'est l'occasion, justement, de faire un petit point sur ces animaux qui sont très très proches d'un point de vue génétique, mais aussi comportemental, on le verra tout à l'heure.
Voilà. D'ailleurs, si vous avez des témoignages, des questions, tiens, vous avez peut-être rencontré déjà des singes, eh bien racontez-nous, dites-nous le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Laetitia, dans un instant, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux, justement concernant les singes. Hein. Quand un singe sourit, qu'est-ce que ça veut dire?
Un chimpanzé.
Chimpanzé, plus précisément. La réponse dans quelques minutes. Mais auparavant, nous accueillons Daniel qui est là. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, ce qui m'amène, c'est que j'ai un souci avec ma chienne. Pardon, j'ai pas encore fait ma voix.
Vous savez, ça nous arrive tous les dimanches, nous, donc ne vous inquiétez pas. Hein.
Faut chanter.
Voilà. Voilà, c'est ça.
Vous savez très bien, moi je chante, comme ça j'ai une belle voix après.
Oui, voilà, c'est vrai. Alors voilà, j'ai une petite chienne qui est âgée de 5 ans, elle vient d'un refuge, je l'ai eue à partir de... Elle avait 2 mois et demi quand je l'ai eue. Et
c'est quoi comme race? C'est aussi une croisée de rien avec rien ou
Oui, voilà, voilà, oui, une petite chienne qui ressemble, voilà. Je ne peux pas vous dire la. Je sais pas.
D'accord.
Je ne peux pas déterminer sa race. Et elle a des problèmes de comportement et cela, j'ai remarqué, c'est depuis sa stérilisation, en fait.
Mmh.
Parce que elle dort dans son couffin, dans la salle de séjour. Puis lorsque je quitte le canapé, elle se redresse brusquement. elle prend un objet personnel, n'importe quoi, une chaussure, une écharpe qui traîne par là. Elle le maintient dans sa gueule et elle est très agressive.
C'est-à-dire ?
Eh bien, elle vous regarde d'un regard vraiment profond et puis elle grogne et on ne peut pas l'approcher.
Elle serait prête à mordre ?
Ah oui.
C'est pas du jeu.
Non, je pense
parce que il y a des chiens qui grognent et même retroussent les babines comme s'ils voulaient mordre, alors que c'est par jeu. Alors c'est un peu déstabilisant parce que on a appris qu'un chien qui grognait, qui aboyait ou qui montrait ses dents, ben c'était un chien agressif et menaçant. Mais il y a des chiens qui expriment, enfin qui veulent jouer ou qui invitent au jeu en faisant ça. C'est pour ça que je vous dis. Alors vous la connaissez mieux que moi, mais vous avez peur de mettre la main ou d'essayer de jouer avec elle.
Ah mais faut pas que je m'approche, hein. Ah non. À ce moment-là et puis après. Voilà, et puis bon, ben je sais pas comment faire parce que autrement elle est très gentille, elle peut être
Parce que dans la journée, enfin là c'est un moment bien particulier de la journée, c'est au moment où vous allez dormir, donc vous sortez de la pièce, c'est ça si j'ai bien compris?
Voilà.
Et c'est qu'à ce moment là
voilà,
dans la journée il y a
dans la journée quelquefois dans la journée aussi, alors il y a un autre comportement dans la journée qui est encore pire. Parce que si je m'allonge sur le canapé, quelquefois, pas toujours, hein, lorsque je me redresse, parfois elle saute sur moi pour me mordre. Hein.
Mm-hmm.
Elle m'a déjà mordu, oui.
C'est quand même un problème, là, Laetitia.
Ah oui, là, Daniel, là, c'est pas seulement ce petit comportement du soir qui est inquiétant, c'est son comportement dans l'ensemble. On sait que les chiens qui veulent s'imposer par rapport à leur maître, par rapport à d'autres chiens, ils les provoquent. Et le fait de prendre un objet vous appartenant, puisque a priori c'est une chaussure, une écharpe, etc., de le prendre dans la gueule, de vous regarder et vous dire « viens le chercher, mais fais gaffe quand tu viendras le chercher », c'est de la provocation. Et on sait que les chiens qui veulent être leaders, en tout cas qui veulent s'imposer, ou qui ne sont pas, plutôt, qui ne savent pas quelle position hiérarchique ils ont dans la maison, eh ben, ils provoquent pour voir si, si vous capitulez, tout simplement. Le fait de capituler, c'est de partir.
Exactement.
Et de pas
donc
essayer
là,
de prendre.
Ils ont gagné.
Donc, ils ont gagné. Donc, ça assoit un petit peu, l'impression qu'ils sont leaders un petit dans la maison.
Mm-hmm.
Et puis, si vous essayez, de rentrer en compétition avec eux, parce que c'est ce qu'ils veulent, hein, ce qu'ils provoquent, hein, la compétition, vous les affrontez, on voit un petit peu qui gagne entre les deux. Donc, je pense que tous les soirs, comment vous, en plus, vous partez de la pièce. C'est-à-dire que, normalement, un chien qui veut être maître à la maison, eh ben il contrôle les allées et venues des personnes ou des chiens de la maison. Donc le fait de sortir de la pièce, c'est que vous ne lui avez pas demandé l'autorisation.
Voilà.
C'est un peu le douanier. Et c'est vrai que les chiens qui veulent être douaniers, ce sont des chiens qui veulent s'imposer par rapport à leur maître. Le fait, par exemple, que vous vouliez, vous lever d'un coup de votre canapé, c'est souvent aussi de l'agressivité par irritation, dans le sens où c'est un chien qui veut tout contrôler et puis là il voit que vous partez ou que voilà, et ça il aime pas parce que voilà, il peut pas tout contrôler et un chien ne peut pas tout contrôler, c'est pour ça qu'il devient anxieux aussi. Les chiens qui veulent devenir leader à la maison, ils deviennent anxieux parce qu'on peut pas tout contrôler.
Et bien sûr.
On peut pas contrôler les allées venues de tout le monde, etc. Donc ça veut dire, Daniel, que cette chienne, alors le lien avec la stérilisation, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, cette chienne a pris une position dans votre maison, et surtout par rapport à vous, qui est trop grande. Elle veut vraiment, ou elle cherche sa position hiérarchique par rapport à vous, soit elle veut consolider cette position, et ce rituel qu'elle a tous les soirs à vous provoquer, à être satisfaite que vous capitulez parce que vous partez, faut arrêter, quoi.
Et quelle position dois-je prendre? Comment faut-il que je fasse? Qu'est-ce que...
D'abord, il faut revoir son comportement dans l'ensemble. C'est pas seulement le soir, à ce moment-là, où elle vous provoque. Bon, d'abord, quand elle provoque, il faut pas répondre à la provocation. Donc, vous partez de la pièce et vous fermez la porte, vous claquez la porte derrière vous et c'est bon. vous ne répondez pas à
ça.
C'est ce que je fais. Et vous ne la provoquez pas par les yeux, vous ne la regardez pas dans les yeux, d'accord?
Oui.
Vous regardez son train arrière, mais vous ne répondez pas à sa provocation.
Oui. Oui.
Et puis vous partez, elle n'existe pas, ça c'est encore le mieux. Ensuite, il va falloir, moi je pense que ça serait très bien pour vous Daniel, voir avec un vétérinaire comportementaliste un petit peu la place qu'elle a dans votre vie, la place qu'elle a chez vous, et changer deux, trois choses. Des fois, c'est deux, trois choses qu'on change. Et ça suffit d'abord à montrer à la chienne que c'est pas elle qui dirige la maison et à la rassurer surtout. Parce que c'est beaucoup mieux pour un chien d'être non pas le leader à la maison, mais d'être le second, le troisième, enfin voilà, et d'être de savoir que vous, en tant que maîtresse, vous la protégez et vous gérez la maison, que le fait d'être leader dans la maison. Donc je pense qu'il va falloir faire un petit bilan. Mmh. De votre vie avec votre chienne, de son comportement, et ça, faire ce petit bilan avec un vétérinaire comportementaliste qui va vous écouter, qui va vous revoir peut-être la position du couffin, quand on lui donne à manger, quelle attitude vous avez par rapport à elle, une attitude des fois qu'on s'en rend pas compte, mais des fois on lui fait allégeance, hein, et on lui donne des prérogatives de leader qu'elle ne devrait pas avoir.
Merci beaucoup, Daniel. Et donc, il faut réagir là. Hein. On peut pas rester comme ça.
Oui, parce que c'est vraiment un symptôme qui montre que, voilà, dans sa vie, elle, voilà, c'est pas qu'elle vous domine, mais qu'elle veut être un peu la maîtresse à la maison.
Mmh. On va parler justement des relations homme-chien avec Charlotte dans un instant, qui est un bulldog français, mais qui a aussi une meute de 5 chiens, Laetitia. Donc là, on rentre, c'est du lourd là. Hein. Mais auparavant, quand même, pratiquement à 7h moins le quart sur RMC, c'est notre quiz de la vie privée des animaux. On parle des chimpanzés ce matin. On évoquera entre autres les chimpanzés, les grands singes tout à l'heure entre 7h et 8h sur RMC, pour mieux les connaître. Mais vous avez décidé donc d'en parler dans ce quiz de la vie privée des animaux, et surtout identifier en fait le sourire des chimpanzés.
Et oui, parce que les grands singes sont les seuls animaux avec l'homme, parce que nous sommes des animaux, n'est-ce pas, qui peuvent sourire.
Oui.
Alors nous, on sait ce que ça veut dire sourire, encore que. Certaines personnes qui sourient, mais ça voudrait dire autre chose. Mais que signifie le sourire chez le chimpanzé? Vous savez, ce sourire que l'on voit dans toutes les publicités, les films.
Oui, c'est vrai.
Alors, est-ce que ça veut dire je suis content, j'ai peur ou j'ai faim? C'est vraiment pas dire la même chose. Hein.
Je suis content. On pourrait se dire, le singe est tellement proche de l'homme que finalement, c'est comme nous. C'est-à-dire qu'il a bien compris que lorsqu'il souriait, il était content.
Oui.
D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hein, le singe rigole, le chimpanzé rigole.
Eh oui.
Donc, soit il a peur, soit il a faim. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le mail, Laetitia? Nous avons Marie qui nous dit... Alors, Marie qui est une fidèle auditrice, qui nous dit qu'un sourire chez un chimpanzé, c'est un signe de peur. Michel, qu'on embrasse aussi, nous dit que c'est un signe de peur.
Ah.
Alors, est-ce que ça veut dire que quand le chimpanzé sourit, il a peur? Allez, moi je valide. C'est mon dernier mot, Laetitia.
C'est votre dernier mot?
Oui.
Écoutez...
Mais moi, quand je vous souris, j'ai jamais peur. Hein.
C'est sûr. On peut sourire par peur.
Oui, mais enfin, c'est vrai.
Ça peut déstabiliser...
Quand on sourit, j'aurais...
L'agresseur, oui. Bon.
Mais on n'a pas peur.
Oui, on n'a pas peur.
Bon. Alors.
Pour une fois, vous avez raison. Je dis bien pour une fois.
Pour une fois, j'ai raison. Bravo.
Et oui. Ce fameux sourire que l'on voit chez le chimpanzé, que l'on voit dans toutes les films, les publicités, etc. C'est un animal qui a peur. En fin de compte, il exprime sa peur en montrant ses dents. Vous savez, c'est un petit peu comme un chien aussi qui montre ses dents pour se défendre, hein, aussi. Alors que le vrai sourire chez un chimpanzé, si vous en rencontrez, hein, on sait jamais dans la journée, est celui où il a la bouche ouverte, mais les lèvres cachent les dents. Voyez?
Oui.
Alors que quand il montre les dents, le chimpanzé, ça veut dire qu'il est très nerveux et qu'il a peur. Et ça peut aussi indiquer, par exemple, une soumission. Mais une peur.
D'accord.
Parce qu'il est soumis. Mm-hmm. Donc, voyez, hein, ça veut pas dire la même chose que chez l'homme.
Eh bien écoutez, si demain vous croisez un chimpanzé, vous en saurez un petit peu plus s'il sourit. Laetitia, on revient dans un instant avec Charlotte qui va nous parler de ses bulldogs français. Et puis bien sûr, vous pouvez à tout moment nous appeler 3216 ou bien animaux@rmc.fr. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 6h48, c'était RMC, c'est le week-end des experts. Le 32-16 est là pour ça. Vous pouvez à tout moment joindre notre vétérinaire, soit pour nous déclarer votre amour envers les animaux, témoigner, poser une question à notre vétérinaire, profitez-en. Donc le 32-16, mais aussi animaux@rmc.fr. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Vous pouvez cliquer sur j'aime. Tiens, on vient de poster une petite photo de l'ambiance du studio il y a un instant. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, et puis nous laisser les petits messages. On les lit tous. Laetitia, avant de retrouver la météo et les infos de 7h et avant de parler des grands singes tout à l'heure entre 7 et 8, eh bien, nous accueillons Charlotte qui va nous parler des grands chiens. Là, Charlotte. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Charlotte.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Alors, je vous appelle parce que j'aurais une question à voir, enfin, comment réagir. J'ai 5 chiens, dont 3 bulldogs français, un charpé et un canet corso.
Alors, 3 bulldogs français,
qu'est-ce que
un charpé et un canet corso.
Oh, vous avez bien les gueules un peu écrasées.
Hein, oui, bah, j'aime bien le type molossoïde.
Voilà.
D'accord.
Les brachycéphales, comme on dit dans notre jargon.
Oui, voilà, exactement. Et j'ai eu mon mâle à 4 ans. Après, le reste, c'est que des femelles stérilisées.
Oui.
Lui n'est pas castré.
Oui.
Et donc, c'est un chien que j'ai eu à l'âge de 5 jours. Donc, que j'ai élevé au biberon.
Oui.
Il a toujours été en contact avec d'autres chiens. Et je suis employée d'élevage. Donc, en fait, mes chiens me suivent toujours au travail.
D'accord. Oui. Donc, vous les connaissez bien.
Oui. Donc, mais c'est pour ça, là, enfin, sur ce problème-là, je ne sais pas comment réagir.
D'accord.
Oui.
Donc ils sont toujours en contact avec des chiens, ça s'est toujours super bien passé. Et même s'il est de base, c'est quand même un chien assez dominant, donc je sais que c'est un chien que je peux pas mettre en contact avec des chiens dominants.
Oui.
Mais il y a quelques mois, je me suis fait opérer du dos et j'ai eu de gros soucis, donc un port de corset, j'étais très très handicapée en fait. Et depuis ce jour-là, il est devenu extrêmement protecteur. Dans le sens où si je le prends tout seul, il va pas y avoir de soucis. Mais si je le prends avec les filles, par exemple, et qu'on croise un autre chien, là, il aura tendance, il va y aller, et il va provoquer. Donc, il va tourner autour, il va grogner, aboyer, jusqu'à ce qu'en fait le chien s'en aille. Et du coup, je sais pas comment réagir. En fait, quand je le vois partir comme ça, j'essaye de détourner son attention et pour le faire changer d'avis.
Mmh.
Mais ça marche une fois sur deux, parce que le problème c'est que du coup en fait il emmène, il y a l'effet de meute en fait.
Bah
le
oui,
problème
en plus.
C'est que du coup il y a les filles qui font qui suivent son jeu, donc du coup je sais pas comment faire.
Et je suppose que comme vous êtes professionnel dans l'animalier, vous n'avez pas de laisse, c'est ça? Ils sont en liberté, ils sont en liberté quand ils se promènent.
Oui.
Oui.
Après dans cet endroit après je les après ils sont en laisse. Quand on fait des balades vraiment dans des parcs publics, etc. Mais sinon, c'est vrai que c'est des chiens qui ont un super rappel et qui cohabitent bien, quoi. Mais c'est vrai que depuis mon opération, c'est un chien qui est devenu extrêmement protecteur et du coup, j'ai l'impression qu'il est devenu extrêmement stressé, en fait.
Ah bah oui, mais je me mets à sa place. Ça doit être un stress immense pour lui parce que il doit. Alors c'est typiquement le chien mâle qui protège et vous c'est vrai que c'est le mot qui est protecteur envers vous. En plus, vous avez eu un épisode de votre vie où vous avez été faible. Il l'a senti puisque vous étiez un petit peu handicapé par le corset, etc. Et donc là, son comportement de protecteur a grandi et en plus il est avec d'autres femelles. Même si elles sont stérilisées, c'est d'autres femelles aussi. Mmh. Donc, c'est le mâle avec ses femelles, parce que vous faites partie de
oui,
ces
ça
femelles.
Fait un peu
voilà.
Exactement.
Voilà. Donc, vous imaginez. Donc, ça veut dire que quand il sort dehors, il a sa meute de femelles. Et quand il y a un autre mâle qui passe, eh ben, il faut écarter ce mâle, ce qui est instinctivement, il le sait. Il faut l'écarter. D'autant plus que c'est pas un chien peureux, que c'est un chien qui s'impose et qui est assez charismatique. Donc, il est encore plus, dans le souci d'écarter ses ces autres mâles. Mmh. Et comme c'est quand même une énorme responsabilité, parce qu'il a 4 chiennes plus vous, plus enfin c'est un petit chien quand même, il est encore plus soupolé, on va dire.
Oui,
et ça va aller en augmentant, hein.
C'est qu'en fait, en plus, bon, le bulldog français, il a vraiment peur de rien. On peut lui mettre un chien de 80 kilos, il va vraiment pas se démonter, quoi.
Mais
du
oui.
coup, en fait, en plus, pour lui, j'ai peur pour lui, parce que c'est aussi ma responsabilité de propriétaire de faire attention au chien qui est en face aussi. Mais du coup, je me dis, je peux lui mettre un matin nap, il en aura rien à faire, en fait.
Oui. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, deux choses. Il n'est pas castré. Ce serait bien de tester quand même un implant contraceptif pour une castration qu'on dit chimique, vous savez, qui est réversible. Oui. Je vous demande pas de l'opérer, mais juste, ça va déjà diminuer le taux de ses hormones mâles et ça d'accord. peut avoir une influence sur sa réactivité, d'accord ? Surtout sa réactivité d'accord. vis-à-vis d'autres chiens. Ensuite, vous me dites qu'ils sont très bien, et ça je vous crois, qu'ils répondent bien aux rappels, etc. Donc il faudrait aussi que, ben, comme vous faites, après avoir fait cet implant contraceptif, mm-hmm. à chaque fois qu'il essaye d'aller vers un autre chien, si vous sentez pas l'autre chien, genre autre chien, un gros chien qui peut lui faire du mal, aussi lui dire, bon, viens au pied, je gère la situation. Et vous-même... Vous pouvez aussi aller vers... faudrait pas vous écarter de ce chien qui passe. Mmh. Vous voyez ? Parce que ça veut dire, viens au pied, je veux que l'autre chien soit éloigné. Donc, ça augmente un petit peu son agressivité par rapport aux autres chiens.
D'accord.
Il faudrait voir que si l'autre chien est sympa ou pas, si vous pouvez vous approcher de l'autre chien, éventuellement le toucher pour montrer à votre chien que vous gérez la situation, qu'il n'y a pas de problème.
D'accord.
Que c'est vous qui menez la meute quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ?
Bah, oui, exactement.
C'est vous qui, voilà.
J'essaye de. Enfin, c'est vrai que souvent, en fait, je pense que ça doit être mon erreur aussi. Je m'écarte parce que le problème.
Mais oui.
C'est vrai que si j'ai tendance à le. Bah, du coup,
mais tout le monde fait ça.
Oui, oui.
Tout le monde fait ça. On s'écarte.
En fait, voilà. Dès que je le rattache, ça. Mmh. Alors là, ça accentue son agressivité.
Bien sûr.
Bien sûr. Et du coup, en fait, je plie parce que. Enfin, du coup, c'est vrai que les filles s'énervent aussi. Et je me dis bon ben on va passer son chemin et puis mais c'est vrai que c'est devenu pire parce que c'est un chien de basse, enfin très très peau de colle. Donc je fais des cris de spasmo tétanie et c'est un chien qui me les détecte.
D'accord. Oui, non, mais il est très proche de vous. C'est ce que je comprends. D'autant plus que vous avez été malade et donc il se sent un peu. Il faudrait diminuer, le rassurer, lui dire que c'est vous qui menez la meute. Donc dans un premier temps quand même, l'implant contraceptif, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que ça va bien diminuer ses hormones mâles. Et quoi qu'on dise, les hormones mâles, quelque part, aggravent un peu son comportement protecteur et son comportement agressif envers les autres mâles. Et aussi vous imposer en tant que chef de meute, quelque part parce que vous avez une meute. Ah ben imposez-vous et dites-lui bien non mais je gère ça et d'ailleurs le chien qui vient là que tu veux éloigner non moi je vais vers lui, je vais le caresser.
Merci beaucoup Charlotte. Allez, le mail de Michael maintenant, Laetitia, avant de trouver la météo et les infos. Michael qui nous dit qu'il a plusieurs chats qui viennent d'attraper le coryza.
Oui.
Cette maladie est-elle transmissible aux chiens ?
Ne vous inquiétez pas.
Il a notamment un cavalier King Charles.
Non, ne vous inquiétez pas, votre cavalier King Charles peut très bien côtoyer les autres chats. Le coryza
n'est pas transmissible du chat au chien.
Non, mais par contre, c'est très contagieux entre chats.
D'accord. Ah, on rappelle ce que c'est ?
Alors, c'est un gros rhume. Si vous voulez, c'est un gros rhume chez un chat qui peut d'ailleurs devenir sérieux. Et c'est provoqué par une association de malfaiteurs, j'allais dire, mais c'est un peu ça, de microbes. Des virus, des bactéries. Alors on a des herpès virus, coronavirus, calicivirus, pardon, réovirus, des bactéries, d'autres bactéries. Et alors on a quoi comme symptômes ? C'est simple, c'est le chat qui éternue, le gros rhume, qui a le nez qui coule, les yeux qui coulent, les yeux rouges. Et ça peut se transformer en toux, en trachéite et même en pneumonie.
Ah oui.
Et on peut avoir chez les chatons, parce que les chatons sont très sensibles à cette maladie, on peut avoir carrément une mort chez le chaton qui n'est pas...
Bien.
Alors ça se soigne alors par des antibiotiques, par des inhalations. Mm-hmm. On donne aussi ce qu'on appelle de la L-lysine. C'est un acide aminé qui entre en concurrence avec un des virus qui est... qui est responsable de cette maladie et qui permet de prévenir aussi les rechutes, parce qu'on a beaucoup de rechutes. Et c'est surtout une maladie de ce qu'on appelle de collectivité, c'est-à-dire quand les chats sont ensemble. Alors, si vous avez plusieurs chats, Michael, ça m'étonne pas que tous les chats aient le coryza. Je vous conseillerais donc de bien traiter vos chats et surtout de les vacciner, parce que c'est pas parce qu'ils ont eu déjà le coryza qu'ils ne vont plus avoir le coryza.
D'accord.
Et le fait de les vacciner permet de diminuer les risques de rechute, parce qu'il peut y en avoir, mais s'il y a rechute, elle sera moins grave.
En plus, voilà, ouais,
voilà. Donc, mais vous inquiétez pas pour votre chien. Les seules maladies transmissibles du chat au chien, on a les champignons, la teigne, on a les puces,
bien sûr,
les vers intestinaux. C'est pour ça qu'il faut vermifuger tout le monde en même temps, et puis éventuellement la rage, mais bon. Voilà.
D'accord.
Donc il y a très peu de maladies qui se transmettent, mais faut bien faire attention, les puces aiment les chats et les chiens. Je parle de ça parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup.
Et même les hommes, d'ailleurs, au passage, Laetitia.
Oui, ben oui. Hein? Et les lapins et les cochons d'Inde,
voilà,
et les furets.
Les puces aiment tout le monde, c'est ça qui est cool.
Elles aiment tout le monde.
Ouais. Bon, le problème, c'est que nous, on les aime pas. Donc, au bout d'un moment, ça pose un problème. Allez, Laetitia, on va revenir après la météo, les infos de 7h. Et pour notre deuxième partie, on va s'intéresser aux grands singes. Vous allez tout savoir sur ces animaux étonnants, nos cousins d'ailleurs, avec notre invité, et puis Laetitia, et puis vous pourrez témoigner et poser vos questions. Dans quelques minutes après la météo et les infos, 3216, animaux@rmc.fr. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, vos animaux.